Muito obrigado.
Nous allons reprendre notre réunion. J'espère que vous avez bien profité de la pause café offerte par l'Assemblée législative de Madère. Nous sommes dans un cadre idoine pour parler de la biodiversité et de la protection des écosystèmes. Sans plus attendre, je vais donner la parole au docteur Pedro Sepúlveda, directeur de l'action climatique et des services de durabilité de la Direction régionale de l'environnement et de la mer de la région autonome de Madère. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de parler des actions qui ont été menées par Madère en matière d'atténuation et d'adaptation du changement climatique afin de protéger la biodiversité. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'adaptation. En 2015, Madère a approuvé sa stratégie en matière d'adaptation au changement climatique. Et la vision de cette stratégie est mentionnée ici. Il s'agit d'un changement climatique adapté à la région avec un véritable engagement de sa société et l'intégration de son environnement. Donc, comme vous le voyez, cette stratégie est donc composé de 8 secteurs clés. Et parmi les secteurs clés, 2 nous intéressent tout particulièrement, la biodiversité et les forêts. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi la biodiversité joue-t-elle un rôle aussi important dans les stratégies d'adaptation de Madère? Donc, hier, vous avez visiter la forêt, notre forêt, et donc vous avez peut-être une idée de la réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la biodiversité joue un rôle très important à Madère. Charles Darwin a mentionné Madère à 23 reprises, donc presque autant que les îles Galapagos. Et selon une étude de 2008, a énuméré 7452 espèces présentes à Madère. La plupart sont inconnues, telles que les arthropodes, les spermatophytes et le lichen. Et nous avons environ 1500 espèces endémiques et sous-espèces endémiques. Donc, ça signifie que ce sont des espèces qui n'existent qu'ici. Donc, c'est très important. Donc, nous avons différentes espèces, des reptiles, des tortues marines. Et nous avons une biodiversité, d'ailleurs, très intéressante dans les milieux marins et notamment avec la présence de phoques moines. Et ce qui est très important pour ces espèces, ce sont leurs habitats. Donc nous avons les forêts, mais également les massifs. Nous avons Porto Santo et ses îlots, notamment. Et à l'extérieur de Funchal, vous avez aussi 3 petites îles. Et nous avons aussi les îles sauvages. Donc là, vous avez une photo de la petite île sauvage. Donc il s'agit d'habitats réellement totalement sauvages. Et notre histoire en matière de conservation remonte beaucoup plus loin que nos stratégies en matière d'adaptation. En 1982, l'île de Madère a créé le parc naturel de Madère pour célébrer la coexistence entre la nature et l'humain. Et donc vous voyez donc les différents espaces sur les photos, la Calderon Verde et d'autres. La plupart sont donc protégés par la directive sur les habitats et les oiseaux. Et je l'ai mentionné déjà, la forêt que nous avons visitée, la forêt Laurel, fait partie du patrimoine mondial. Donc il s'agit de sites classés. Un autre exemple important est la réserve naturelle des îles Sauvages. Elle se trouve proche des îles Canaries. Et ce sont ces îles qui nous donne une projection véritablement atlantique pour Madère, mais également pour le Portugal et pour l'Europe. La réserve a été créée en 1971. Il s'agit d'une réserve terrestre et marine, et la première réserve portugaise. Ces îles sauvages sont également un sanctuaire pour les oiseaux marins, différentes espèces. Et en 1992, le diplôme européen lui a été décerné. Et cette zone a été élargie en 2019 jusqu'à 12 000 nautiques. Et il s'agit donc de la réserve européenne la plus importante et donc la zone est la plus large zone de pêche interdite. Et nous avons également la réserve des îles désertes créée en 90 et pour la protection du phoque moine, mais également pour différentes espèces d'oiseaux marins. Donc, une fois de plus, cette réserve a également obtenu donc, le diplôme européen en 2014. Et puis, nous avons également cette réserve partielle créée en 96, donc la première réserve portugaise exclusivement marine, et donc, mais il y a différentes espèces protégées. Et donc, il s'agit d'une réserve qui est située juste à l'extérieur de Funchal, et donc il s'agit d'une réserve urbaine. Et il s'agit également d'un site très important pour la plongée sous-marine. Donc, toutes ces réserves, ces types de sites, ces parcs naturels, ces réserves naturelles. Donc vous voyez à droite une carte de Madère et il faut savoir que 66% du territoire est protégé donc du plus et plus ou moins, plus, enfin partiellement ou totalement. Et vous voyez également que 89% du territoire marin est également protégé. Donc, vous voyez que Madère, c'est une nature terrestre, mais également sous-marine. Et donc là, on a notamment les récifs de corail, différentes espèces de poissons, requins et différentes espèces que la science connaît moins. Donc Madère est vraiment un point chaud pour la biodiversité en matière de biodiversité sous-marine. Et bon nombre des défis que nous rencontrons doivent également être traités à ce niveau-là. Et il y a moins d'un mois, nous avons créé cette immense réserve. Donc vous voyez le dessin à droite, et c'est la ligne, c'est en rouge, la ligne rouge. Donc il s'agit donc de la zone EEZ de Madère, qui est d'une superficie de 56 000 km². Et l'objectif était de protéger les fonds marins et les monts sous-marins. Et ce que l'on a fait, c'est que l'on a également fait le lien avec la protection de plusieurs activités. Donc, comme je l'ai dit, 56 000 km² de superficie et 15% de toute cette zone est déjà protégée. Donc, nous sommes à mi-parcours pour ce qui est de l'atteinte de nos objectifs en matière de protection, des objectifs internationaux. Donc, quelles sont les pressions auxquelles nous faisons face maintenant? Donc, nous avons les feux de forêt. Ces images vous montrent les événements récurrents auxquels nous sommes confrontés ici, mais nous avons également les crues subites. Et lorsqu'il y a de fortes précipitations dans les montagnes, ces types d'événements surviennent et donc évidemment ils ont un impact très important sur la biodiversité, sur les habitats. Nous avons également l'invasion donc d'espèces, des espèces invasives et exotiques au niveau des habitats littoraux et nous avons une algue également qui colonise nos océans. C'est plus récent, donc il faut que l'on traite ce problème. Et avec le changement climatique, on a également de plus en plus de vagues de chaleur, de nuits dites tropicales. Et nous avons eu notamment en 2023 127 nuits tropicales consécutives, donc sans interruption. Et puis, nous avons également le réchauffement de l'océan. Donc, il faut que l'on examine ce que cela signifie pour la biodiversité. Donc, pour revenir à notre stratégie, comme je l'ai dit, elle a été approuvée en 2015, mais elle est fondée sur les scénarios climatiques de 2005. Donc, nous avons étudié les impacts, la capacité d'adaptation et différentes les vulnérabilités de 8 secteurs clés. Donc, parlons un petit peu tout d'abord des vulnérabilités. Alors, je suis désolée, c'est en portugais, mais ce que nous avons fait, pour résumer, nous avons identifié plusieurs groupes, plusieurs habitats, et à gauche, nous avons une colonne qui évalue la vulnérabilité de ces groupes ou de ces habitats. Donc, vous voyez que la colonne à droite correspond à la vulnérabilité et à gauche et puis à droite à la capacité d'adaptation de ces groupes ou habitats. Alors, pour la biodiversité marine, le même exercice a été réalisé et en 2015, ce que nous avons observé est que cet environnement était moins connu. Donc, il fallait l'étudier davantage pour avoir des indicateurs plus clairs. Et donc, après cela, la stratégie a été adoptée. Et donc, quels sont les objectifs? Donc, renforcer la résilience aux événements extrêmes, prévenir les tendances de long terme, la recherche et l'innovation, et la formation et la communication.
Alors, pour ce qui est effectivement de la biodiversité, c'est le thème d'ailleurs de notre réunion. Et pour la biodiversité, nous avons donc prévu deux choses. D'abord, augmenter donc ses connaissances et également de pouvoir diversifier tous ces paysages avec les différents corridors également. Donc, au niveau des forêts, je vous l'avais parlé, des différentes espèces, pour également garantir un paysage diversifié en soutenant donc les corridors écologiques efficaces. Et le dernier, peut-être, que je présenterai donc plus tard, ce sont les feux, les incendies de forêt également, et le reboisement et protection des forêts. Donc, je vous en parlerai plus tard. Alors, par rapport à accroître les connaissances, que fait-on pour cela? Eh bien, la plupart, ce sont des projets financés par l'Europe. Ici, nous avons une liste des projets pour récupérer les habitats. Nous avons pour protéger les espèces, pour mieux connaître également la mer et également pour la restauration de la nature, etc. Donc, l'Union européenne, maintenant, essaie de financer et nous utilisons maintenant tout cela pour protéger les habitats et de protéger les espèces, mais également pour accroître des connaissances sur différentes matières. Nous avons besoin également de contrôler ces différentes espèces, etc. Donc, ce sont des exemples plus récents. Je pense qu'il y a quelques semaines, nous avons montré notre troisième inventaire des forêts. Qu'est-ce qui se passe avec nos forêts, donc avec d'autres habitats, etc. Et il est très important pour l'adaptation, également pour la planification. Cela nous donne une vision de ce qui se passe avec les habitats principaux que nous avons donc dans ces forêts. Et en 2025, nous avons présenté deux rapports importants sur la directive des habitats et l'autre sur la révision du statut de conservation de l'ULCN pour les plusieurs groupes. Ensuite, depuis 2019, plusieurs révisions donc de ces statuts de conservation également de l'Institut avec ici à Madère. Ensuite, avec des programmes également de contrôle et des espèces qui sont en cours depuis maintenant 30 ou 40 ans. Donc, beaucoup de choses sont faites maintenant pour contrôler ce qui se passe avec les espèces et leur habitat. Maintenant, un exemple justement de ces espèces envahissantes également, donc basées sur les plantes. Nous avons ici donc plusieurs pour Desertas, Selvagens, San Lorenzo, mais également pour les dunes également de Porto Santo. Et toujours avec cet engagement de la société, des étudiants et d'autres membres importants. Avec également la partie militaire, etc. Donc, il y a ce contrôle également des vertébrés, par exemple, avec les rats, par exemple, également toute la partie des oiseaux, etc., qui ont un impact important également sur ces espèces. Nous avons besoin donc de contrôler ces espèces aussi. Mais passons maintenant au point, le point principal, donc ces incendies de forêt et le besoin également d'augmenter cela. Donc ce graphique nous montre les chiffres avec les zones plus touchées par ces incendies de forêt. On peut voir ici. En fait, je m'attendais à avoir un écran plus grand pour montrer cela. Donc, mais en tout cas, cette barre, la barre en vert, là, nous montre les zones qui ont été impactées et la ligne rouge, ce sont le nombre effectivement d'incendies. On voit que il baisse, donc la tendance est à diminuer, mais les zones là, vous avez par exemple 2010, 2012, 2016 et 2022. Avec beaucoup de zones impactées. Du côté droit, c'est le graphique avec la partie annuelle, donc avec les émissions de gaz à effet de serre et également la partie en jaune ou les barres jaunes qui représentent par la suite l'utilisation également du sol. Donc quand on a effectivement un incendie, comme en 2010 par exemple, on voit ici l'émission qui augmente, 2012 et 2016 et 2023. Nous n'avons pas encore ici le taux des émissions, mais pas beaucoup d'impact. Alors, si on souhaite effectivement combattre les incendies, eh bien, c'est l'action principale, puisque nous avons un impact non seulement sur ces efforts, mais également pour les efforts d'atténuation, donc de mitigation. Donc, c'est ça que nous avons besoin de préparer ici. Alors, ce que nous avons fait jusqu'à présent, donc la planification est importante, également pour défendre donc les incendies avec des opérations ou des plans opérationnels sur la partie des différents mécanismes pour combattre les incendies de forêt. Mais la prévention est également surveiller, et c'est fondamental, donc la surveillance aussi, avec les systèmes de surveillance et d'alerte, des systèmes qui ont été développés par les laboratoires de génie d'ingénierie civile. Donc, c'est ce système qui ont deux branches principales, donc pour les alluvions, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ensuite pour les feux de forêt également, donc basé sur les capteurs et également la surveillance humaine. Et ce système se base également sur des capteurs qui sont un peu éparpillés dans l'île pour détecter lorsqu'un incendie de forêt, par exemple, commence. Et ensuite, ceci est également fait par la partie également de la surveillance par les drones. Il ne s'agit pas uniquement de surveillance. Alors, Nous avons besoin des ressources pour combattre ces incendies. Et certaines de ces ressources ont été renforcées. Donc, il y a quelques années, MADER qui a commencé à avoir donc ces hélicoptères à plein temps, non seulement pour les incendies, mais également avec d'autres objectifs. Et l'idée, c'est qu'un deuxième, donc un autre hélicoptère, puisse être prêt toute l'année. Et ici, c'est notre objectif. Et la création également d'une société de sapeurs forestiers avec une trentaine d'éléments qui est très important également pour combattre les incendies et également de pouvoir s'établir dans toute l'île. Et évidemment, nous avons besoin de renforcer également ces différentes coopérations avec plus de moyens adaptés pour lutter contre ces incendies de forêt. Ensuite, la coopération internationale. Un honneur pour moi d'être ici, puisque la coopération internationale est fondamentale. Il y a maintenant 2 années, ce fut les mécanismes de la société de protection également, avec ces hélicoptères également, des Canadair, pour aider les incendies qui se propageaient pendant plusieurs journées, donc surtout dans les zones montagneuses et ses habitats. Et maintenant, nous sommes intégrés dans tout cela et nous sommes très fiers de voir que cette coopération internationale est toujours en cours. Alors, je vous parlais de la stratégie qui a été en 2015 approuvée avec différents scénarios. Nous connaissons très bien que cela a besoin de cette révision. Et nous sommes en train de faire cela parce que, justement, les avancements sont tellement forts ces 20 dernières années, ces progrès en sciences du climat. Nous avons donc de nouveaux scénarios climatiques basés sur les projets européens. Et ce rapport est maintenant disponible, conduit également dans une échelle spécifique, un kilomètre carré, donc... Ceci est très récent, donc jusqu'en 2010, avec toute cette projection, donc notamment pour à long terme, au court terme, donc d'ici la fin du projet, et basé également sur ce scénario qui est en plein milieu maintenant. Donc ce n'est rien à voir avec l'accord de Paris, mais c'est peut-être le scénario le plus important aujourd'hui, et également avec... voir qu'est-ce qui va se passer donc ici à Madère. Alors, avec la question des variables modélisées, la température, la précipitation, l'élévation également du niveau de la mer, et également le vent et le rayonnement solaire. Nous devons voir où est-ce que nous devons placer nos efforts au niveau solaire et si ce sont les meilleurs points dans une quinzaine ou vingtaine d'années. C'est très important pour nous. Alors, juste quelques conclusions. La réduction des précipitations qui peut être réduite de 24 à 65 % si nous continuons comme ça. L'augmentation moyenne de température de 2 degrés. Ici, on parle de 2010 jusqu'à 2050. Et de 3 à 5 degrés ici, 2100 à Madère et à Porto Santo, juste 2 degrés. Ensuite, des épisodes de précipitations extrêmes qui pourraient augmenter de 49% d'ici 2050. Je vous ai montré effectivement ces alluvions également et la période de sécheresse qui pourrait augmenter également. Donc ce sont de grands défis pour nous et avec également l'augmentation également des eaux de la mer et donc le niveau de la mer de 0,6 à 0,8 mètres d'ici 2100 avec les infrastructures nécessaires. Alors ce qui est important également pour cette stratégie, c'est de pouvoir partager nos connaissances. Tout ce que je viens de vous dire avec les rapports jusqu'à 2050, avec les scénarios de climat, tout ce qui fait partie de la deuxième phase de la vulnérabilité, les actions, les mesures en continu, eh bien tout cela doit être conclu d'ici à la fin de l'année. Donc cela est public. Voici l'autre code que vous pouvez également, je peux partager cela avec vous si vous souhaitez obtenir davantage d'informations. Et pour accéder également à notre site internet. Alors, la question que je vous posais tout au début, pourquoi est-ce que la biodiversité joue un rôle si important pour l'adaptation et la stratégie d'adaptation à Madère? Alors, je vous laisse ici une citation, je pense que vous connaissez David Attenborough. La vérité, c'est que le monde naturel change et nous sommes totalement dépendants de ce monde. Il nous fournit notre nourriture, notre eau et notre air. C'est la chose la plus précieuse que nous ayons et que nous devons la défendre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Spouvre, pour cette très belle présentation. Vous êtes concentré également sur le territoire que nous avons visité hier et ce week-end. Et maintenant, nous pouvons poser les questions à notre orateur. Monsieur Nascimento Cabral. Merci au nom également de notre présidente de la région autonome de Madère et de l'Assemblée législative, que je souhaiterais également saluer. Je remercie la présentation faite par le professeur Spouvre. Vous nous montrez un projet qui est très ambitieux, à savoir le plan de décarbonisation pour également combattre le changement climatique ici dans l'île de Madère. Vous nous avez donné des exemples excellents par rapport à ce qui se fait et qu'est-ce qui est encore prévu. Et quelles sont les menaces qu'une région comme la nôtre, avec cette dimension insulaire, sachant que moi-même des Açores, nous sommes plutôt des victimes des changements climatiques plutôt que des personnes qui contribuent pour cela. Donc ce sont les personnes parfois qui ne sont pas aussi responsables et qui montrent davantage d'ambition. Donc je souhaiterais vous féliciter pour cet excellent travail. Deux questions. Au niveau des zones marines également protégées, donc toute la partie d'Ancarlos qui est une initiative excellente pour protéger donc la mer, donc Madère et du continent, 173 km². Parce que cela montre bien cet engagement vis-à-vis de la durabilité de la part de ces régions comme Madère et les Açores. Nous avons déjà 300 km² de protégés avec beaucoup de pression sur le secteur des pêches. Et cet équilibre également que vous avez mentionné par rapport aux besoins de jouer avec la question de la partie multidimension de la mer. Ce n'est pas uniquement la pêche, mais également cette pression du continent pour la production de l'énergie, également maritime, donc également en concurrence avec nos pêcheurs. Ensuite, les compensations potentielles pour les pertes attendues également suite à la diminution également de l'activité économique. Donc, tout cela doit être bien réfléchi et c'est un fardeau d'avance plus important également pour nos ressources qui sont déjà par elles-mêmes limitées. Ensuite, avec le thon également, notamment pour les Açores et la Madère, avec tout ce qui est fait également, et une des espèces qui est importante également. Nous avons cette forte dépendance de l'Atlantique, de la Méditerranée, et évidemment qui doit garantir maintenant qu'il y a ce parcours migratoire de cette espèce si importante pour les pêcheurs si lointains de Madère et des Açores. Aux Açores, nous avons déjà quantifié l'impact du secteur agricole. Une forte dépression agricole, notamment pour la production du lait, de la viande. Mais qu'est-ce qu'il en est pour l'impact humain, donc ces activités qui sont fondamentales également pour la gestion de Madère et des Açores, mais pour la, qui font également la production également de CO2. Est-ce que vous savez quelle est l'action, quelle est l'activité économique qui est plus impactée et la plus polluante, pour ainsi dire? Pensez-vous qu'il va y avoir la création donc de ces marchés de carbone? On en parle beaucoup puisque les zones protégées maritimes également, ou marines, est-ce que cela est quantifié? Lauri-Silve, par exemple, pour les forêts Lauri-Silve, est-ce que tout cela est effectivement quantifié également pour Très bien. Alors, très rapidement, Pietro, est-ce que vous pouvez répondre? Je me suis surtout concentré. Alors, vous, c'est plutôt la question de la mitigation également. Donc, je vous ai parlé surtout de l'inventaire également. Vous avez parlé des émissions, de ce qui a été publié. Et cet inventaire nous montre que pour Madère, les deux secteurs qui contribuent le plus sont la production énergétique et évidemment toutes les régions ultra-périphériques qui n'ont pas cette possibilité d'avoir cette liaison avec le réseau européen. Évidemment, ces régions auront toujours ce grand défi. Donc, les Açores en étant le cas. Vous avez la partie géothermique également. Nous, nous n'avons pas cette possibilité. Ensuite, vous avez également l'eau, donc également pour l'énergie, également pour les populations et pour les différentes décharges, etc. Et ensuite, pour l'énergie propre et la partie des secteurs des transports. C'est un grand défi pour nous, mais également pour... cela devient de plus difficile de trouver des solutions techniques et il y en a d'autres qui sont communes, notamment pour le continent. Quoi qu'il en soit, troisième secteur, également la partie des résidus également. Donc, contrairement aux Açores, nous n'avons pas une activité économique qui puisse effectivement se souligner là-dessus. Je ne vous ai pas parlé des efforts que nous faisons pour également la partie également de cette mitigation également ou l'atténuation. Et ces dernières années, nous nous sommes concentrés surtout sur ces mesures de mitigation pour l'énergie propre également, pour les émissions de carbone. Mais vous avez parlé des forêts Lauri-Silve. Effectivement, ce que nous constatons, c'est que Lauri-Silve, suite à ses caractéristiques millénaires, donc c'est une forêt qui n'est pas vieillissante et ce n'est pas une forêt qui n'a pas donc ce rôle si important. Et ensuite, les incendies. À chaque fois que nous avons ces feux de forêt, effectivement, ce qui devrait être quelque chose d'important, eh bien, c'est quelque chose qui a une proportion énorme. Donc, ces efforts d'atténuation doivent être pris en compte également dans la région. Ensuite, pour ces marchés de carbone, c'est vrai que nous commençons. Beaucoup de mesures sont en train d'être mises en œuvre également. C'est vrai que Madère a le Carbon 7, donc c'est un projet qui permet aux entreprises locales et ceux qui nous visitent également pour le secteur aérien et du tourisme puissent minimiser leur empreinte carbone, donc plutôt prendre le train. Et c'est ce que la région essaye de faire, effectivement, de pouvoir donner cette possibilité aux entreprises de faire cette compensation. Alors, cela est important pour une région comme la nôtre. Nous parlons également de cet équilibre et, évidemment, c'est quelque chose de très peu. Mais toutes les contributions sont importantes, en fin de compte, et j'aimerais renforcer ce point. Lorsque nous parlons, effectivement, dans ces domaines plutôt noirs, eh bien, il est important d'apporter un peu de lumière. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Très bien, merci.
Mais une fantastique intervention. Tivemos três excelentes.
Très bien, ce fut effectivement de trois belles contributions. Merci à nos orateurs. Merci également d'avoir apporté des solutions à l'avenir pour cette région et que non seulement le Portugal, mais d'autres pays pour créer des conditions environnementales et notamment également pour le secteur énergétique avec toutes les problématiques associées également à l'eau comme le bien essentiel. et pour la planète. Très bien, nous avons des avions à prendre, donc il va falloir tenir en compte maintenant le temps. Alors, quels sont les pays qui souhaitent prendre la parole ou les députés? Alors, je vois la Turquie, le Parlement européen, la Bulgarie, le Chypre, je vois également le Maroc. Parlement européen, vous voulez prendre la parole deux fois, c'est ça? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs et chers collègues. Merci également pour cette occasion et pour l'invitation pour faire partie de ce débat dans un endroit unique. Alors, être ici à Madère, cela nous demande de bien comprendre à quel point cela est extraordinaire et fragile, hein, les écosystèmes de cette île. Hein. Impressionné également par ces paysages, cette diversité également, avec cette relation durable entre les citoyens et la nature. En tant que membre du Parlement européen de la Pologne, je souhaiterais démontrer notre respect, l'effort également pour protéger l'environnement local, avec les forêts, les services, l'eau et également toute la partie côtière. Alors, beaucoup de ces actions montrent les secteurs également européens avec la partie du réseau ordinateur, avec la directive également et les programmes qui, pendant plusieurs années, ont constitué la base des politiques environnementales européennes. Alors, les exemples de Madère qui montrent à quel point la mise en œuvre flexible de ces instruments, donc le respect également de ces conditions locales. Simultanément, nous ne pouvons pas oublier non plus les défis que Madère fait face avec les pressions du tourisme, l'érosion côtière, avec les ressources de l'eau et les impacts également du changement climatique. Donc ce sont des questions qui sont très spécifiques pour la région et qui sont très connues également dans d'autres parties de l'Europe. C'est la raison pour laquelle, pour le travail du Parlement européen, notamment pour la partie du comité de la Commission de l'environnement, nous renforçons le besoin de prendre en compte des régions plus sensibles, comme les îles, mais également les zones côtières. Alors, dans ce contexte de la région méditerranéenne, des actions doivent mettre en exergue le besoin de protéger la vie sauvage, mais également de pouvoir répondre à cette dégradation continue avec tous les écosystèmes marins, mais également dans les zones insulaires et côtières et qui sont caractérisées par ce haut niveau de vulnérabilité, au niveau anthropologique également, de cette pression et l'impact également de la partie du climat. Alors, à cet égard, il est fondamental de pouvoir de promouvoir l'intégration, mais également la gestion durable de ces ressources naturelles, et incluant donc les mesures pour la perte de biodiversité, la dégradation de l'habitat, mais également la pollution et d'autres, et l'exploitation également des ressources naturelles. Alors, ces actions doivent être menées à bien tout en respectant les compétences des États membres. Prendre en compte également les conditions économiques régionales et également des communautés locales. Alors, en Pologne, nous faisons face aux mêmes défis avec la protection de ces écosystèmes, la gestion également des ressources de l'eau et pour sauvegarder également des zones qui sont exposées à ces événements extrêmes. Et C'est pour cela que de ma perspective, de la perspective des approches basées sur la communauté locale et également des connaissances des États membres, a présenté des solutions qui puissent montrer et augmenter ces ressources fondamentales. Et en tant que membre du comité également pour le Parlement européen, je soutiens constamment des solutions et je donne également un soutien pour cette flexibilité et montrer notamment pour les zones montagneuses. Parce que ce sont ces régions qui sont les plus impactées par la partie géographique et également par les contraintes. En conclusion, j'aimerais également vous montrer donc ma reconnaissance pour cette visite et ce programme. Cela montre bien que à quel point cela est fondamental pour donner une base solide pour la réunion d'aujourd'hui et également pour servir d'inspiration et pour s'engager donc dans ce débat que nous avons eu. J'aimerais également vous remercier pour votre ouverture et votre amabilité et également la chaleureuse bienvenue de toutes les délégations, ce qui montre effectivement que nous sommes très bienvenus ici. Donc, alors je remercie également à Edward et à toute son équipe également pour ce fort engagement, son professionnalisme également et également tout le contexte que vous avez créé. Merci parce que cette visite a été fondamentale, donc de grande valeur pour des points et des perspectives importantes, mais surtout également pour une source d'inspiration des expériences. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Nous devons effectivement être à la hauteur de la qualité de l'accueil, de la qualité des travaux de votre commission. Donc merci à vous. Je donne à présent la parole à la Turquie. Si vous pouviez, si nous pouvions d'abord donner la parole au Maroc, parce que nous avons un problème avec l'interprétation pour la Turquie, et puis ensuite nous passerons à l'orateur suivant.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة الرئيسة الجمعية التشريعية لمنطقة ماديرا، سيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء اللجنة الطاقة والبيئة والماء، حضرات الزميلات والزملاء البرلمانيين، يشرفني أن أتدخل باسم المملكة المغربية في هذا الاجتماع الهام في إطار أشغال هذه اللجنة لتقاسم بعض المعالم التجربة المغربية في حماية البيئة البرية والبحرية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في الفضاء المتوسط. لقد جعل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانتقال البيئي والطاقي خيارا استراتيجيا ترجم إلى سياسات عمومية واضحة ومشاريع كبرى ذات أثر ملموس. فعلى مستوى الطاقات المتجددة، انخراط المغرب في أحد أكثر البرامج طموحا بالمنطقة، حيث يهدف إلى بلوغ أزيد من 52% من القدرة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة في أفق 2030، ويعد مركب نور وارزازات للطاقة الشمسية الذي يصنف ضمن أكثر المشاريع من نوعه عالميا نموذجا بارجا في تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز السيادة الطاقية إلى جانب مشاريع كبرى في طاقتي الرياح والماء. أما فيما يتعلق بتدبير المياه المائية وتحلية مياه البحر، فقد اعتمد المغرب سياسة استباقية لمواجهة الإجهاد المائي والتغييرات المناخية من خلال إنجاز وتشغيل محطات كبرى لتحلية مياه البحر، من بينها محطة أكادير ومحطة الدار البيضاء في إطار الإنجاز. Thank you.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à la Turquie et je pense que cette fois-ci, nous aurons l'interprétation. Je donne la parole au président de la délégation, Monsieur Mustafa. Mesdames et messieurs, chers collègues, alors nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder des défis mondiaux qui nous concernent tous, à savoir la protection de la vie sauvage et également les pertes de biodiversité. Nous sommes à l'intersection, croisement de trois zones géographiques et par conséquent, nous avons une responsabilité particulière en matière de conservation pour protéger des espèces endémiques, les routes migratoires des oiseaux et également les écosystèmes marins. Nous avons élargi notre
deniz ekosistemlerinin korunması alanında ise Türkiye Akdeniz ve Ege Denizi'nde deniz koruma alanlarını artırmak.
Donc la protection donc de ces espèces dans la mer Égée et nous avons développer différentes activités afin de soutenir le développement d'un secteur durable, le secteur des pêches durables. Nous avons mené différentes études scientifiques sur différentes espèces et différents domaines de la conservation des écosystèmes. Nous avons également adopté une politique zéro déchet en Turquie et cela a été très important pour réduire la pollution terrestre et marine. Et puis nous avons également reçu une donc distinction de la part de l'ONU car nous avons pu nous atteindre, donc nous rapprocher de notre objectif d'atteindre le zéro net. Mais bien sûr, nous savons tous que les efforts d'un seul pays ne suffisent pas. Nous devons partager nos connaissances, développer des mécanismes communs et renforcer nos efforts en matière de formation et de renforcement des capacités. Au niveau donc de notre Parlement, donc nous contribuons à ce processus à travers différentes études sur différents écosystèmes marins et terrestres. Et nous sommes actuellement en train d'étudier la situation de toutes nos régions. Notre objectif est de réduire les pertes de biodiversité afin de lutter contre le changement climatique et pour s'assurer pour assurer un bon équilibre entre la conservation et l'utilisation des ressources. Nous avons atteint 13% de notre de la superficie de notre pays qui est protégée. Donc 13% de notre pays est constitué de zones protégées. Et nous contribuons également aux efforts de la COP21 de l'ONU et l'objectif est de réduire les émissions, non seulement, mais pas seulement en Turquie. Et nous devons renforcer la résilience de l'ensemble des pays méditerranéens. Donc, c'est notre objectif. Aujourd'hui, en ce moment, nous voulons donc tout ce que nous allons publier sera essentiel pour les générations à venir, ainsi que les actions que nous menons. Donc, tout d'abord, je souhaite vous remercier pour votre invitation. Merci à Monsieur Teixeira pour la visite d'hier et pour le dîner. Et je remercie également notre collègue des Açores et pour sa participation. Et j'espère que notre prochaine réunion se tiendra aux Açores, pour que nous puissions apporter notre contribution.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Monsieur le Président, chers participants, nous sommes ici aujourd'hui pour travailler sur la question de la conservation de la vie sauvage en Méditerranée. Et il s'agit d'une zone très importante au niveau mondial en termes de patrimoine. Je remercie l'Assemblée législative de Madère pour son invitation. Donc, notre séjour a duré 2 jours et nous avons été très impressionnés par vos paysages, par votre sens de l'accueil et nous sommes très satisfaits de cette réunion. Et c'est bon de savoir que qu'il n'y a pas de guerre ici. Et donc, nous pouvons donc. Nous sommes dans une zone de paix et c'est très important pour surmonter tous les défis. Nous avons donc entendu les différentes présentations. Aujourd'hui, et des chercheurs qui ont fait part des résultats de leurs études. Alors, et ce qui est important, c'est d'être bien conscient de notre responsabilité commune et qu'il nous faut une coopération internationale entre les différents pays donc pour résoudre pour surmonter ces défis. Nous devons diversifier nos stratégies en matière d'agriculture, de pêche, tout en atténuant le changement climatique. Donc, il est très important de partager les connaissances. Et puis, la question du financement est également essentielle. La protection de la nature ne doit pas entraver le développement. Et il doit s'agir du point de départ du développement. Monsieur Mustapha l'a déjà mentionné. Le Premier ministre turc a lancé un projet important. Et en 1995, nous sommes devenus membres de l'accord de Barcelone et nous tentons de respecter toutes les cibles, les exigences de cet accord. Et donc, toutes les activités que nous avons menées sont importantes et nous devons, bien entendu, assurer un suivi des différentes étapes de ces projets tout en impliquant l'ensemble des parties prenantes. Concernant l'énergie, la Turquie tente également d'atteindre les objectifs fixés en ce qui concerne les énergies renouvelables. Nous renforçons donc l'utilisation de ces énergies. Elles correspondent aujourd'hui à 36% du total de l'énergie produite en Turquie. Nous travaillons à l'atteinte de la cible des émissions zéro. Et nous voulons également que nos industries utilisent, donc soient alimentées à 100% aux énergies renouvelables. Alors bien entendu, nous avons besoin de financement pour tout cela. C'est également donc une question dont on doit tenir compte. Je remercie le président de la commission sur l'énergie qui nous a accueillis dans cette région du Portugal. Nous avons visité différents sites et nous avons pu voir les impacts du changement climatique sur plusieurs activités. Moi, j'aimerais aussi que notre prochaine réunion se tienne aux Açores, parce que nous avons beaucoup à dire. Et nous aurons également, au mois de mai, la réunion de la commission de l'économie, et vous serez on vous y accueillera chaleureusement. Donc la réunion se tiendra à Istanbul. Bien, maintenant je donne la parole à la Bulgarie.
Ladies and gentlemen.
Mesdames et messieurs, merci de m'avoir invité à ce forum. J'ai entendu d'excellentes présentations de la part des scientifiques et de
чува голяма част от теоретичните ми знания.
I recalled basic concepts from my profession, hydrogeology, even though politics has erased much of my theoretical knowledge.
Вярно е, че науката ясно показва, че възстановената природа е една от най-ефективните защити срещу климатичните рискове. И днес говорим, че в борбата с климатичните промени има два основни стълба – превенцията и адаптацията.
Alors, la science démontre très clairement que la restauration de la nature constitue l'une des principales manières de limiter les risques liés au changement climatique. Et il y a deux piliers fondamentaux de la lutte contre le changement climatique, la prévention et l'adaptation.
The
sooner we act, the lower.
Plus nous agissons rapidement et plus le coût pour la société sera donc faible.
Спестяваме по 14 евро от бъдещи щети.
Selon des études européennes, chaque euro investi dans la protection de la nature nous permet de d'économiser 40 euros. Et donc, nous avons un argument environnemental, mais également économique. La Bulgarie est également particulièrement vulnérable au changement climatique. Selon les données des institutions européennes, l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste de l'Europe et le sud-est de la Bulgarie fait partie des régions les plus impactées.
Които днес виждаме в други държави ще се случат все по-често и у нас.
Nous n'avons pas de frontières climatiques. Les événements climatiques extrêmes que nous observons aujourd'hui dans d'autres pays se produiront de plus en plus dans notre pays.
Зоните край Атанасовското езеро, езеро Това и Дуран Кулак е реална мярка за климатична адаптация, която предпазва хората, инфраструктурата и икономиката.
Dans ce contexte, la restauration de la côte bulgare de la mer Noire et plusieurs lacs constituent des mesures d'adaptation au changement climatique, en réalité, qui permettent de protéger la population, les infrastructures et l'économie. Mais pour obtenir des résultats, nous avons besoin d'orientations claires. La science doit fournir des solutions. La politique doit fournir des outils pour les appliquer. Et ce n'est que lorsque les politiques et les scientifiques travaillent de concert que nous que les mesures d'adaptation produiront des résultats. Donc, il s'agit d'un choix politique. Soit on investit dans des solutions respectueuse de l'environnement en temps opportun, soit on payera beaucoup plus tard le prix des impacts du changement climatique. Donc nous devons nous fonder sur la science et nous avons une responsabilité très forte envers les générations à venir. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette formidable contribution et merci à toutes et à tous pour vos contributions qui seront très utiles à notre plénière et merci pour vos expériences, merci pour l'expérience de nos chercheurs. Cela a été vraiment un plaisir. Et nous avons pris beaucoup. Nous courons contre la montre, mais je souhaiterais remercier tous les membres de cette commission pour leur participation. Je remercie tout particulièrement Madame la Présidente de l'Assemblée législative pour son accueil. Je remercie l'Assemblée de la République. Je remercie les techniciens et le représentant de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, ainsi que Madame Isidoro et toute l'équipe pour l'organisation de cet événement, et Monsieur Pereira de l'Assemblée de la République. pour tous les efforts que vous avez déployés et, pour organiser cet événement. Et voilà. Donc, derrière tout événement réussi, il y a toujours une équipe qui déploie beaucoup d'efforts. Finalement, pour revenir à notre ordre du jour, nous en sommes au point divers. Si vous souhaitez brièvement prendre la parole. Au mois de mai, nous aurons une autre réunion. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de point divers à ce stade. Nous vous informerons de la date de la prochaine réunion de la commission. Au mois d'avril, nous avons une plénière et puis au mois de mai, la réunion de la commission sur l'économie et la commission affaires politiques. Et finalement, je souhaite vous remercier pour votre présence. Nous avons prévu un déjeuner et puis ensuite une visite d'une cave à vin à Madère.
Problema. E portanto, muito obrigado.
Bon, merci infiniment. Nous allons faire rapidement une photo dans la salle principale du Parlement. Et puis nous irons au restaurant qui se trouve à 3 minutes à pied d'ici. Voilà, en fait, le restaurant se situe vraiment juste en face de l'Assemblée. Moins d'une minute. Et je demande aux orateurs de venir me voir parce que nous avons un petit souvenir à vous donner. Donc, merci effectivement pour cette excellente réunion et vive l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.